Le journal Loïc Barrière. L'ONU réclame une enquête rapide pour faire toute la lumière sur la mort d'une jeune iranienne arrêtée parce qu'elle ne portait pas correctement sa tenue islamique. Le nucléaire iranien au centre d'une rencontre entre Emmanuel Macron et le président iranien Ebrahim Raisi. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement réunis à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Entretien avec David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS. Il faudra sortir du nucléaire, mais à ce jour, il n'y a pas d'autre alternative, affirme Philippe Bouriaki, porte-parole de l'écologie au centre. Il sera l'invité de Pluriel. Enfin, l'aide financière de la CAF à la garde d'enfants sera étendue jusqu'à l'entrée au collège pour les familles monoparentales. L'ONU exprime son inquiétude au sujet de la violence de la répression des manifestations en Iran. Les manifestants protestent contre la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs. La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme par intérim, Nada El-Nashif, réclame une enquête rapide et impartiale au sujet de sa mort. Elle souligne en particulier les allégations de torture et de mauvais traitements qui auraient entraîné la mort de la jeune iranienne arrêtée parce qu'elle ne portait pas correctement sa tenue islamique. En signe de protestation, plusieurs femmes ont manifesté en Iran en ôtant leur voile, ce qui est interdit dans la République islamique. Une rencontre entre Emmanuel Macron et le président iranien Ebrahim Raisi ce mardi à New York. Rencontre organisée en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Au centre de leur discussion, l'accord nucléaire de 2015, un accord actuellement suspendu. Autre rencontre à l'agenda du président français, un entretien avec le premier ministre libanais Najib Mikati. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement se rencontrent à l'ONU. Parmi les sujets abordés lors de cette Assemblée générale de l'ONU, l'Iran, la crise climatique et énergétique ou encore la guerre en Ukraine. Quel est l'impact d'un tel rendez-vous international? Entretien avec David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Là, on rentre dans la 77e session 2022-2023, puisque la 76e s'est achevée le 12 septembre dernier, à la tête de laquelle avait été élu Abdullah Chahid des Maldives, qui a comme successeur aujourd'hui le Hongrois Csaba Kőrösi, qui a placé d'ailleurs sous le signe d'une formule emblématique, solidarité, durabilité et science, par rapport aux défis croissants auxquels la planète se trouve confrontée aujourd'hui. Donc il y a un tournant, d'ailleurs le premier débat qui va avoir lieu, c'est sur les solutions transformatrices, je cite, à des débats interconnectés. Donc il y a une prise de conscience de la mondialité des enjeux aujourd'hui qui sont plus du tout localisés. Alors le problème, c'est effectivement quels sont les pouvoirs de la dite Assemblée, parce que dans le fonctionnement de l'ONU, l'Assemblée générale, c'est pas le Conseil de sécurité. Elle prend des résolutions, mais qui ne sont pas contraignantes comme le Conseil de sécurité. Et donc c'est là qu'en fait tout se joue.
Oui, il s'agit d'étudier, de voter des recommandations liées aux questions internationales.
Oui, des recommandations, alors qui ne sont pas anodines, hein, parce que historiquement, il y a des résolutions qui ont été adoptées, qui avaient une portée importante, dans la mesure où c'est quand même la photographie d'une évolution des 193 pays qui composent l'ONU. En l'occurrence, je fais référence notamment à la résolution 1514 de 1960, qui est notamment sur la question de la décolonisation, l'octroi de l'indépendance pour les pays encore sous tutelle coloniale, et sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui était la résolution 2625 de 1970. Donc, effectivement, elles sont pas contraignantes, mais en même temps, elles sont quand même le reflet d'aspiration ou d'évolution, une photographie de ces évolutions. Et d'ailleurs, tout récemment encore, la question s'est posée de la réforme du droit de veto, justement, du Conseil de sécurité, dans le prolongement de l'invasion russe de l'Ukraine. Et justement, l'Assemblée générale a adopté une résolution sans vote, le 26 avril 2022, qui demande aux P5, c'est-à-dire aux membres permanents du Conseil de sécurité, de justifier désormais leur recours à leur droit de veto auprès de l'Assemblée générale. Alors évidemment, ça ne supprime pas le droit de veto, mais c'est une manière de stigmatiser l'usage abusif qui peut être fait par certains de ces membres.
Et quelles sont les particularités de cette Assemblée générale cette année?
L'Assemblée générale de cette année, alors, dans le formalisme des dispositions, aujourd'hui, le premier siège est donné par tirage au sort. Donc, il se trouve que c'est le Belize aujourd'hui. Et puis après, les autres membres, les placements se font par ordre alphabétique. C'est centré sur vraiment les défis mondiaux, en réalité, qui se font jour et dont la crise en Ukraine a été un accélérateur, incontestablement. En même temps, c'est un accélérateur et une photographie de la fragmentation, de l'évolution effectivement de ce panorama de l'ensemble de 193 pays, puisqu'on a noté à l'occasion de cette invasion de l'Ukraine qu'il y avait d'une certaine manière un fossé qui se faisait entre les pays occidentaux d'une part et le reste du monde. Non pas au profit forcément de la Russie en la circonstance, mais en tout cas, il y avait un attentisme prudent d'une grande partie des 193 pays qui ne s'alignaient pas forcément sur la logique des sanctions adoptées par les Occidentaux, qui se retrouvent d'une certaine manière à devoir acter une influence déclinante. Et ça, c'est vrai que c'est une conséquence des évolutions de ces dernières décennies.
Des recommandations sur la vie quotidienne des citoyens peuvent-elles être prises, des recommandations notamment liées à l'énergie et l'impact de la guerre en Ukraine sur ce sujet?
La question énergétique va être centrale, puisque j'évoquais le thème du débat général qui évoquait un tournant décisif et des solutions transformatrices. Il y a la question de la solidarité internationale par rapport à des défis qui sont communs, qui sont à la fois alimentaires, on le voit avec la crise en Ukraine, puisque notamment beaucoup de pays de l'Afrique se sont retrouvés confrontés à une situation extrêmement difficile, et les défis énergétiques, justement de la transition énergétique et tout ce que ça peut impliquer au niveau planétaire, parce qu'on est conscient que ces défis en réalité ne sont pas localisés géographiquement, et que les interactions, d'où le mot d'ailleurs qui a été retenu pour les défis interconnectés, que les interactions sont devenues patentes pour tous les pays. Alors évidemment, il y a des attentes qui sont formulées, et notamment de ces pays qui subissent d'une certaine manière un certain nombre d'événements sur lesquels ils n'ont pas prise.
La pandémie de Covid-19 a accentué les inégalités. Est-ce le cas également de la guerre en Ukraine cette année?
Oui, les deux ont été des catalyses d'une certaine manière, d'une évolution, d'une prise de conscience. Des inégalités d'accès effectivement aux vaccins, notamment, on l'a vu, puisque le secrétaire général avait stigmatisé le fait que finalement les pays riches étaient bénéficiaires au premier chef des progrès vaccinaux au détriment des pays à faible revenu. Et puis là, on retrouve finalement les mêmes tropismes avec la question alimentaire énergétique induite par les conséquences de la guerre en Ukraine. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il y a une confirmation d'une certaine manière de cette inégalité entre certains pays, mais en même temps, une mise en demeure par rapport aux pays développés, en fonction des responsabilités qui sont les leurs, justement, pour ne pas faire d'obstruction aux défis qui se présentent. Et on l'a vu avec l'accord sur les céréales, qui a été validé pour permettre l'exportation, justement, des céréales, notamment à destination de l'Afrique.
Et la guerre en Ukraine risque-t-elle d'occulter d'autres crises majeures dans le monde lors de cette Assemblée générale des Nations Unies?
Ponctuellement, effectivement, il y a un focus qui est principalement centré sur la guerre en Ukraine, mais on voit bien que de toute façon la guerre en Ukraine elle-même induit des conséquences qui sont en cascade. Alors le secrétaire général concernant le changement climatique avait évoqué justement, pour que le focus ne soit pas monopolisé par la guerre en Ukraine, la question du changement climatique avec les inondations au Pakistan. Il avait fait le déplacement, il avait dit que lui-même avait été sidéré par l'étendue du désastre, un tiers du pays sous les eaux, et que c'était d'une certaine manière la concrétisation du changement climatique à l'œuvre, et qu'il y avait une responsabilité globale sur toutes ces évolutions. Donc effectivement, le secrétaire général est là pour pointer du doigt le fait que, d'une certaine manière, tous ces défis sont liés les uns aux autres. Ils sont emboîtés, et l'ONU est la caisse de résonance des défis qui sont, d'une certaine manière, qui sont communs à l'ensemble des pays de l'ONU.
Cette Assemblée générale des Nations Unies qui intervient 2 mois avant la conférence climat COP27 en Égypte, c'est cela aussi un élément important?
Oui, c'est un élément important, et je pense qu'effectivement, toutes ces réunions internationales s'inscrivent dans une prise de conscience planétaire dont l'ONU est la caisse de résonance. Même si, en termes de fonctionnement, évidemment, il y a des caractères, des obstructions, et c'est précisément le caractère dysfonctionnel, en partie, du Conseil de sécurité qui est pointé du doigt régulièrement, notamment avec la question de la réforme du droit de veto. puisque on peut rappeler qu'il y a lors du 60e anniversaire de la fondation de l'ONU, il y avait le G4, en l'occurrence le Brésil, l'Allemagne, l'Inde et le Japon, qui avaient déposé leur candidature au siège du Conseil de sécurité et qui avaient eu à l'époque obstruction notamment de la Chine, pas seulement, mais d'une certaine manière, c'est le statu quo est privilégié par les membres, ce qu'on appelle le P5, les membres permanents disposant de la bombe atomique. Et en même temps, c'est une photographie du passé, parce que c'est pas le reflet de la réalité du monde d'aujourd'hui. Et donc, on voit bien que c'est dans ce jeu de ces contradictions, de ces obstructions, que les défis prennent une ampleur particulière.
David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Il répondait à François-Xavier de Calonne. La Russie et l'Ukraine sont prêts à procéder à un échange de 200 prisonniers. C'est ce qu'a annoncé Recep Tayyip Erdogan pour le président turc. Il s'agit d'une avancée significative dans le conflit entre les deux pays. Un Palestinien a été tué ce mardi dans des incidents dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie occupée. Il ne s'agit pas d'une opération de l'armée israélienne, mais d'une opération des forces de sécurité de l'autorité palestinienne. La police palestinienne cherchait à arrêter des membres du Hamas. En France, le gouvernement demande aux préfets de mettre en place toutes les actions requises pour accélérer les projets d'énergie renouvelable en cours, y compris des projets de parcs éoliens. Objectif, rattraper le retard de la France dans l'éolien et le solaire. Sur le mix énergétique, je vous propose d'écouter Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France, conseiller municipal à Orly, porte-parole de l'écologie au centre. Il est l'invité de Pluriel ce mardi à 19h et 23h.
Évidemment, je souhaite qu'à moyen terme, mais dans l'échelle de l'univers, le moyen terme, ça veut dire entre 25 et 35 ans, qu'on sorte du nucléaire, parce que nous l'avons vu avec Tchernobyl, avec Fukushima, et nous avons failli le vivre avec Fessenheim. Le nucléaire, c'est dangereux et on ne sait pas traiter les déchets. Il faut se le dire honnêtement. Mais à ce jour, nous n'avons pas d'autre alternative. Et c'est pour ça qu'il faut accentuer et accélérer cette fameuse transition écologique et énergétique via un mix énergétique. Ça veut dire, si on mise tout sur le renouvelable, on se plante énormément, et le renouvelable, c'est une énergie intermittente. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, vous n'avez plus d'électricité.
Et les besoins en électricité augmentent considérablement avec la voiture électrique, le tout électrique.
Le tout électrique. D'ailleurs, je ne suis pas favorable au tout électrique, parce que je considère que la production de ces batteries, leur coût de carbone et de CO2 sont égales à un véhicule diesel, aussi dingue que ça puisse être, mais c'est la réalité. Et puis surtout, le traitement des batteries pose un réel problème.
Les trottinettes électriques, ça n'est pas écologique.
Ce n'est pas écolo, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Une trottinette normale, sans batterie, là c'est écologique, si surtout on réutilise et on recycle les matière de cette trottinette lorsqu'elle sera en fin de vie. Ce que je veux dire par là, le mix énergétique, c'est effectivement de l'éolien, et aujourd'hui on a de l'éolien sans palme, c'est de grands tubes qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres ou moindre selon le besoin qu'on a, et donc avec le vent qui rentre à l'intérieur, parce que vous avez des interstices, les vibrations font bouger la turbine qui, elle, produit l'électricité. Vous avez le solaire, vous avez aussi le photovoltaïque. Le photovoltaïque, ce qui est bien, c'est que même s'il n'y a pas de soleil, ça fonctionne parce que ça capte les rayons UVB et UVA.
Et d'ailleurs, les supermarchés sont incités aujourd'hui à construire des toits au-dessus de leur parking, justement pour installer du photovoltaïque. C'est une bonne décision, Philippe.
Bien sûr, c'est une très bonne décision. Mais quand je dis le mix énergétique, ça ne peut pas être que ça. C'est plusieurs facteurs combinés. Vous avez la géothermie, par exemple. Alors là, c'est incroyable. On peut quasiment faire pratiquement partout la géothermie. Alors c'est sûr, ça nécessite des investissements important. Mais comme on l'a fait lors du premier choc pétrolier, pour pouvoir être complètement indépendant dans le parc nucléaire, vous avez aussi l'hydraulique, les barrages hydrauliques, vous avez aussi de l'hydrolien, c'est-à-dire vous avez les éoliennes en haute mer, mais vous avez aussi de l'hydrolien sous-marin, c'est-à-dire qu'ils sont dans le couloir des courants, et donc là vous avez un flux continu non-stop. Vous avez aussi les biomasses, c'est-à-dire nos déchets qui peuvent produire une énergie qu'on peut utiliser. Vous avez aussi l'hydrogène. Enfin, vraiment, il y a un mix extraordinaire. Vous avez les degrés bleus, c'est récupérer les énergies, les calories de nos égouts, lorsqu'il y a surtout cette décomposition. Donc, ça le fait une source de chaleur. Et c'est tout ça combiné. Et puis, il faut surtout, avant tout, isoler les logements qui sont des passoires thermiques. Sinon, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Mais il faut le faire tout de suite et immédiatement.
Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France, conseiller municipal à Orly, porte-parole de l'écologie au centre. Il est l'invité de Pluriel ce mardi à 19h et 23h. Enfin, l'aide financière à la garde d'enfants sera étendue jusqu'à l'entrée au collège. Pour les familles monoparentales, jusqu'alors cette aide de la CAF était versée jusqu'à l'entrée en CP. Cette mesure sera présentée dans le budget de la Sécurité sociale la semaine prochaine. Autre mesure en préparation, l'augmentation du montant des pensions alimentaires. Mais le gouvernement veut faire aussi en sorte que le recours aux aides maternelles ne coûte pas plus cher pour les parents que le recours aux crèches. Cette édition est terminée. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et RadioOrient.com. Merci d'être fidèle à Radio Orient.